Jean-Claude Picard, c'est l'essai du jour, Jacques Munier. La fabuleuse histoire donc du clitoris chez H&O.
Et oui, Marc, aussi incroyable que ça puisse paraître, une proportion importante de femmes et plus de 50% de jeunes filles ignorent tout de cet organe surdoué du plaisir féminin qui cumule plus de 10 000 terminaisons nerveuses, mesure 11 cm de long au repos et se déploie dans tout le bassin féminin avec ses racines comme un phénix, tel que joliment défini dans sa préface par Julie Muret de l'association Oser le féminisme, qui avait en son temps lancé une campagne, c'était en 2011, une campagne d'information et de sensibilisation sur le plaisir sexuel féminin, Oser le clito. Un sondage effectué alors révélait que moins d'un quart des femmes connaissaient la taille du clitoris et seules 16% des jeunes filles connaîtraient sa fonction érogène. Il faut dire que le clitoris, s'il est repéré depuis longtemps, reste dans l'angle mort des manuels cliniques et des séminaires de sexologie. Il y a seulement quelques années, l'urologue australienne Hélène O'Connell dénonçait le fait que lors des opérations de la prostate, toutes les précautions sont prises pour préserver les nerfs érecteurs, alors que dans les interventions chirurgicales gynécologiques, on ne se préoccupe aucunement de la neurologie intime des femmes. La raison en est que ce système nerveux n'est tout simplement pas décrit dans les traité d'anatomie. Et pourtant, il fut un temps pas si lointain où les médecins considéraient l'orgasme comme un remède à la neurasthénie et à l'hystérie, suivant en cela la mécanique des fluides de haute époque hippocratique, pour maintenir les équilibres garants d'une bonne santé. Point de rétention des humeurs corporelles et va pour l'orgasme médicalement assisté. Tout au long du XIXe siècle, les femmes seules et dépressives, réputées inaccessibles à ces orages désirés, se faisaient manuellement stimuler la vulve par leur praticien préféré afin d'atteindre le nirvana. Cette activité, nous dit l'auteur, sexologue clinicien, avec une pointe de nostalgie, représentait environ un tiers du chiffre d'affaires des médecins. Une véritable rente sur un marché très stable, puisque les hystériques ne risquent pas de mourir de leur maladie, pas plus qu'elles ne peuvent en guérir. En revanche, la pratique pouvait se révéler chronophage, certaines femmes nécessitant jusqu'à une heure de stimulation thérapeutique. C'est sans doute pourquoi on imagina, en contexte thermaliste, un dispositif plus efficace pour ce siècle industriel, une machine qui peut à bon droit être considérée comme l'ancêtre du vibromasseur, d'abord à manivelle ou à pédale, puis à vapeur, et enfin, grâce à la fée électricité, dotée d'une miraculeuse autonomie. L'auteur note au passage que le vibromasseur allait être le quatrième appareil électrique à apparaître sur le marché, bien avant l'aspirateur. Sinon, c'était la douche, le jet orienté par un opérateur entre les cuisses. On appelait ça la physiothérapie et l'on croit savoir que ce massage vulvaire hydraulique, communément appelé douche clitoridienne, contribua grandement à la prospérité des établissements de cure thermale. Mais le grand siècle du clitoris reste sans contexte, sans conteste, le siècle des Lumières et du libertinage. Là, le bouton de rose entre en littérature, tribades et ménades vont peupler l'avant-scène des fantasmes de tous bords. Jean-Claude Picard cite chastement le best-seller de l'époque, Thérèse Philosophe du marquis Boyer d'Argence, et la stupéfiante chatouille qui la secoua de spasmes, l'ébranlant de la tête aux pieds, la fit cambrer nerveusement et pousser un long gémissement dont elle ne savait s'il était de plaisir ou d'extase.
Ah, la stupéfiante chatouille. Relire aussi les bijoux indiscrets, hein, oui. Diderot, entre autres. Jean-Claude Picard, la fabuleuse histoire du clitoris chez H&O. Et la revue du jour, Jacques, c'est la revue électronique Genre, Sexualité et Société, avec un dossier sur le VIH.
Voilà, une approche critique sur trois plans principaux, donc la production scientifique d'abord, la représentation médiatique également, et la gestion politique de l'épidémie, avec notamment la contribution de Michael Voigtli sur la politisation de l'épidémie, les mécanismes de construction de la cause. Et puis donc un article de Paul Farmer sur la représentation de la maladie entre sorcellerie et politique dans les zones rurales d'Haïti, envoyer la maladie donc entre sorcellerie et politique. Et puis un article de Randall Packard et Paul Epstein, auquel d'ailleurs le numéro est consacré, sur les épidémiologistes, les chercheurs en sciences sociales et leur organisation de la recherche médicale sur le sida, donc en Afrique.
Merci Jacques Munier, passez une bonne fin de semaine et bien sûr à retrouver l'essai, la revue du jour sur franceculture.fr, 6h43.
France Culture, les matins.